Nous avons commencé la semaine dernière une petite série de méditations sur le culte. Et nous avions considéré le passage d'Hébreux chapitre 12, où nous avons vu considérer le culte comme une offrande, le culte à Dieu comme une offrande de reconnaissance, et qui est aussi conforme à la sainteté de Dieu. Alors le culte traduit le service que l'on rend. Parfois, si vous regardez dans vos Bibles, certaines fois c'est traduit, le mot original qui est traduit par culte est traduit par service. Et dans l'Ancien Testament, ça revêt souvent l'ensemble des rituels, on appelle ça les rituels du culte, qu'accomplissaient les Israélites comme acte d'adoration ou de reconnaissance, où parfois il y avait des sacrifices pour l'expiation des péchés. Donc tout cela constituait le culte. Dans le Nouveau Testament, le culte décrit vraiment l'attitude de cœur du croyant envers Dieu. Si vous lisez, il n'est plus question d'avoir des rituels, choses que l'on fait avec une manière bien spécifique, mais il est question d'une attitude profonde de relation que l'on entretient avec Dieu. La Bible présente cela comme un culte spirituel. Nous allons considérer le passage de Romains aujourd'hui, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous prie d'ouvrir votre Bible en Romains chapitre 12, verset 1. Et nous lisons ceci dans, peut-être lire à partir du verset du chapitre 11, la fin du chapitre 11, parce qu'il y a une doxologie extrêmement profonde de l'apôtre Paul dans ce passage. Donc Romains chapitre 11, et à la fin d'un grand exposé de 11 chapitres sur un exposé doctrinal très profond, très élaboré, l'apôtre Paul s'exclame, on pourrait dire en chant d'allégresse, verset 33 du chapitre 11, et il dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le chapitre 12, c'est le début de, on pourrait dire, de la partie pratique de l'épître. 11 chapitres pour exposer la doctrine, et puis à partir du 12e chapitre jusqu'au chapitre 15, chapitre 16 et beaucoup de salutations, c'est la partie pratique qui est extrêmement liée à la partie théologique, doctrinal, puisqu'il dit ici « Je vous exhorte donc, frère ». Donc ce qu'il dit ici à partir du chapitre 12 est intimement lié à tout ce qu'il vient de développer au chapitre 11. Si vous n'avez jamais lu le livre de Romains en entier, je ne vais pas faire un test, qui n'a jamais lu l'épître aux Romains en entier, je vous encourage à lire toute la Bible, mais aussi à lire, on peut commencer au moins déjà à lire en entier cet épître de Paul aux Romains. Donc ici, le verset 12, je le relis, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc c'est la première exhortation, on pourrait dire, que l'on trouve dans cette partie pratique. Et cette exhortation consiste à rendre à Dieu un culte raisonnable. Alors le mot qui est traduit par raisonnable est traduit ailleurs, par exemple en 1 Pierre chapitre 2, quand il dit désirer le lait spirituel, c'est le même mot. Hein. Donc ici, c'est peut-être que dans votre Bible, il y a un culte spirituel. Hein. Peut-être si vous avez une traduction différente. Et les deux pourraient aller parce que le mot raisonnable vient d'un mot duquel nous tirons le mot logique. Et on pourrait penser, en vertu de tout ce que Christ a fait, il est donc raisonnable que nous lui offrions un culte. D'accord ? Que nous l'adorions. Mais aussi, je pense, on peut penser au fait que l'apôtre Paul met en contraste le culte sous l'ancienne alliance et le culte chrétien maintenant, en vertu de tout ce que Dieu a fait, lui qui a été le sacrifice par excellence, le culte que nous avons à rendre n'est plus un culte rituel, mais un culte spirituel. Comme l'apôtre Paul le disait aux Philippiens, il dit, à chapitre 3, verset 3, il dit, car les circoncis, c'est nous, d'accord, les croyants. Pas seulement les juifs, c'est les croyants, les circoncis de cœur, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Vous voyez ici, hein? Donc il y a ici cette pensée que ce que nous faisons est, le culte que nous rendons est spirituel. Nous le rendons parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est de manière spirituelle, non pas simplement formelle et rituelle, mais c'est de manière spirituelle que nous rendons le culte. Par exemple, 2 Pierre, regardez rapidement 2 Pierre, 1 Pierre, pardon, 1 Pierre chapitre 2 et au verset 5, 1 Pierre chapitre 2, même au verset 4, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, qui dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, donc la pierre vivante ici c'est Christ, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Puis verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, donc les pierres vivantes ici maintenant, ce sont les croyants, hein, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ici, là, on est invité aussi, pareillement que ce que l'apôtre Paul dit dans cet épître aux Romains, à un culte qui est un culte spirituel, un culte que l'on rend à Dieu par l'Esprit. Non pas de manière formelle, en étant des ritualistes, mais de manière spirituelle, guidée par l'Esprit, guidée par ce que Christ a fait. Et donc, le titre de ce message ce matin, c'est le culte spirituel que Dieu commande, le culte spirituel que Dieu commande. On veut considérer premièrement la motivation du culte demandé ici. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, donc c'est un culte qui est commandé, hein. On peut le voir ici, hein. Le mot exhorter, on aurait pu le dire, c'est le mot qui est commandé, hein. Dieu commande que nous le servions, que nous l'adorions, que nous lui offrant un culte. Donc l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. On ne rend jamais à Dieu un culte par soi-même, avec comme fondement soi-même, sa propre pensée, sa propre décision, c'est-à-dire sa propre motivation. Tiens, okay. Personne ne s'est réveillé un jour en disant, ah, c'est pas mal ce qu'on voit dans la nature, c'est pas mal, je vais bien, ou je sais pas moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce serait bien de rendre un culte à Dieu. On a dit, je pense la dernière fois, hein, c'est tout le contraire que l'Épître aux Romains décrit. Il dit que l'homme naturel ayant connu Dieu, il ne lui a point rendu grâce. Donc, au chapitre 3, l'apôtre Paul souligne le fait que nul ne cherche Dieu. Pas même un seul. Personne ne cherche naturellement Dieu. Et ici, ce que Paul montre, c'est que le culte qui est commandé par Dieu repose sur une motivation. La motivation du culte demandé, c'est ici ce que Dieu a fait et que l'apôtre Paul explique dans les 11 premiers chapitres. Il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Il appelle ça les compassions de Dieu. La conduite de la vie chrétienne repose et doit reposer sur des motivations. Et donc le culte qui est commandé ici repose vraiment sur tout ce que Paul vient d'exprimer dans ce chapitre et dont nous avons lu la fin du chapitre 11 où il part en, on pourrait dire, en exaltation, en chant d'allégresse, émerveillé par la beauté, la grandeur, la profondeur de l'œuvre de Dieu. Et donc, ici, il dit, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. » La miséricorde, d'autres textes traduisent le mot compassion par les miséricordes, la miséricorde de Dieu est la motivation pour le culte spirituel que l'on doit rendre à Dieu. La compassion de Dieu, ou sa miséricorde, eh bien, constitue le fondement pour le culte que l'on rend à Dieu. Et donc, quand Paul parle de compassion de Christ, cela englobe vraiment tout ce qu'il a dit auparavant. Alors, on peut citer quelques-unes des choses qu'il a dites. Au chapitre 3, il dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Il parle aussi de la sanctification, il parle de l'élection, il parle de tout le dessein de Dieu à l'égard de ceux qu'il a connus d'avance. Il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre eux, plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » J'espère que nous connaissons, ça s'appelle la chaîne d'or, hein, ce verset, hein, de l'évangile, hein, que nous connaissons bien, hein, ce passage où il est question du dessein éternel de Dieu à l'égard de ceux qu'il a choisis. Donc tout ce que le croyant a, en vertu de l'œuvre de Christ, est englobé ici dans ce que l'apôtre Paul appelle les compassions de Christ. Donc toute l'exhortation doit être prise à la lumière, vraiment, c'est pour ça que je vous invite à lire cela, à la lumière de tout ce qui est décrit dans ces 11 premiers chapitres et qui concerne tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Hein, rappelez-vous le chapitre 8 quand il dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui en Jésus-Christ ?» Donc la grande cause, on pourrait dire, ainsi des vérités sur la justification par la foi et sur la paix avec Dieu, c'est vraiment la miséricorde de Dieu. On est sauvé par la miséricorde de Dieu. C'est en vertu de sa miséricorde que Dieu a accompli toutes ces choses. Et si vous lisez l'Écriture, vous allez voir combien de fois les hommes qui s'exprime, qui adore Dieu, eh bien, parle souvent de sa miséricorde, de sa miséricorde. Juste quelques passages comme cela. David, dans sa prière au psaume 6, dit « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Non pas à cause de ce que j'ai pu faire. Il dit pas « Regarde ce que j'ai fait, comment, tout ce que j'ai abandonné, comment je t'ai servi, comment j'ai été fidèle. » Non, il dit pas tout ça. Il dit « Sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Si vous lisez l'adoration de Zacharie, dans l'évangile de Luc, ou de Marie, il parle plusieurs fois, de la miséricorde de Dieu. Et puis l'apôtre Paul dit à Tite, par exemple, hein, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde, selon sa miséricorde. » Donc c'est quelque chose sur laquelle nous sommes appelés à méditer. L'évangile insiste sur le fait que nous sommes sauvés par, selon la miséricorde de Dieu. Et donc nous devons méditer ces choses, méditer la miséricorde de Dieu, comment elle s'est manifestée, qu'est-ce que cela veut dire, lire ces chapitres pour voir tout ce que Dieu a fait en vertu de sa miséricorde, motivé par sa miséricorde. Et c'est sur cette miséricorde-là, en vertu de cette miséricorde-là, selon cette miséricorde-là, l'apôtre Paul dit que l'on est exhorté à rendre à Dieu un culte spirituelle. Si on ne connaît pas les miséricordes, la miséricorde de Dieu, si on ne médite pas là-dessus, on ne peut pas rendre à Dieu un culte véritablement spirituel, tel qu'il le commande. Parce que sa miséricorde, ses compassions, l'ensemble de son œuvre constituent le socle sur lequel repose notre adoration et le culte. C'est pas la sensation, la musique, c'est pas ce que je pense être bien qui constitue vraiment le fondement de l'adoration. C'est vraiment ce que Dieu a fait. C'est vraiment ce qu'il a fait. Nous avons chanté plusieurs fois aujourd'hui ce que Dieu a fait. C'est le caractère de Dieu même, ses attributs, sa miséricorde qui constitue vraiment ce sur quoi on s'appuie pour en retour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Le culte spirituel est une réponse, du croyant à la miséricorde de Dieu. Et donc, nécessaire pour nous de considérer cela. L'apôtre Paul, dernier passage, parlant à Éphésiens, il parle de ce que nous étions avant. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses, par vos péchés, incapables d'aucune bonne œuvre. Hein. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Voilà ce que nous sommes lorsque l'on ne connaît pas Christ. Nous accomplissions la volonté de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, destinés à la colère de Dieu. C'est ce que ça veut dire, hein? Par nature des enfants de colère, destinés à la colère de Dieu, comme les autres. Et puis il ajoute, mais Dieu qui est riche en quoi? En miséricorde. Voilà comment, et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais il part sur la miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu nous ait accordé ce que l'on ne mérite pas. Le fait que du ciel, ce soit lui qui est tout initié. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, dit-il, Christ est mort pour nous. Eh bien, il a manifesté sa miséricorde. Il est venu. Il nous a aimés d'un grand amour. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Ça c'est dans Éphésiens qu'il dit ça. Et puis il développe ce que c'est que l'Église. Et puis au chapitre 4, là, il dit, « Je vous exhorte donc, pareil que notre passage, en vertu de tout cela, ici. » Et donc notre culte repose, le culte spirituel, le culte que Dieu demande, repose sur la miséricorde de Dieu que nous devons connaître, méditer constamment pour qu'elle soit présente dans nos cœurs, dans nos pensées, que l'œuvre de Christ soit toujours présente dans nos cœurs, dans nos pensées. Deuxième chose, je développe que deux choses aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la nature du culte spirituel qui est demandé. Donc on voit le fondement, la motivation du culte spirituel qui est demandé, c'est vraiment la reconnaissance, la méditation des compassions de Dieu pour nous, de son œuvre. Et deuxièmement, quelle est la nature du culte spirituel qui est demandé? Je lis ici au verset 1 de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la première chose que l'on voit ici, c'est que la nature du culte spirituel consiste à offrir son corps. C'est l'offrande du corps. Ça, c'est, quand on lit, c'est assez étrange parce qu'on a 11 chapitres où l'apôtre Paul parle des profondeurs théologiques de l'œuvre de Dieu. Hein. C'est même déroutant, c'est tellement profond qu'on lui-même, il dit, « Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. » Et puis là, il est au chapitre 12, pour dire, « Comment on pourrait répondre à cela ?» Il dit, « Vous offrez votre corps. » On a l'impression, « Boum !» Le corps, on aurait compris qu'ils disent, « On offre le cœur. » On offre son âme. N'est-ce pas? On offre sa contemplation devant cette merveille de Dieu. Mais il dit, je vous exhorte donc en vertu de ces choses profondes qui nous dépassent, mais dont nous sommes les bénéficiaires, à offrir votre corps. Alors bien sûr, quand l'apôtre Paul parle du corps, il parle de l'être tout entier, je crois, hein, la personne. Mais je crois que spécifiquement ici, il parle quand même aussi du corps physique. Parce qu'au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » D'accord ? Donc on peut supposer ici, quand il parle du corps, il parle aussi de ce corps physique qui doit être offert. Alors, on est dans le langage du culte sacrificiel ici. Hein. Il dit, je vous exhorte donc à offrir, et le mot offrir parfois est traduit diversement hein, dans la Bible, c'est se donner, c'est être là, être, je lis ce que le dictionnaire biblique donne, hein, être présent, être en face de, se tenir auprès, se présenter, se trouver là, apparaître, comparaître. Tout ça, c'est compris dans le mot offrir. Et par exemple, je vous donne deux versets où l'apôtre Paul utilise ce même mot offrir, mais traduit différemment. Il dit, en Romains 6, verset 13, il dit, ne livrez pas, ça c'est le mot, livrez, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments de justice, mais donnez-vous, c'est le même mot encore, offrez-vous, donnez-vous vous-même à Dieu. Donc on comprend que l'offrande dont il parle ici, c'est le fait de se donner, de se placer sur l'autel du sacrifice. C'est ça que ça veut dire. Comme on présentait hein, les choses sur l'autel. 2 Timothée 2, verset 15, il dit « Efforce-toi de te présenter, ça c'est le mot, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et dispense droitement les paroles de la vérité. » Donc, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Donc, quand il dit « Offrir vos corps », c'est à présenter votre corps à Dieu, est-il comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc, vous pourrez voir ici que le mot fait référence à une action sacerdotale, hein, au fait de présenter une offrande sur l'autel. Le croyant est considéré hein, comme un sacrificateur, comme un prêtre qui offre aussi un sacrifice. On trouve cela dans la Bible. Hein. Vous êtes un sacerdoce royal. Et je pense que le verset a été lu ce matin, Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, où il dit « Il chantait un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu » donc c'est une louange à Jésus-Christ ici « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, écoutez cela, tu en as fait, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le croyant est un sacrificateur qui offre à Dieu une offrande. Et le culte spirituel consiste à saisir cette vocation qui est la nôtre, cette position qui est la nôtre, celle du croyant, de sacrificateur et qui offre. Mais il offre quoi ? Il offre son propre, faut le dire le mot, son propre corps, son être tout entier, mais aussi son corps physique. Il offre aussi son corps physique. Donc ici, la nature du culte spirituel, c'est d'offrir notre corps à Dieu. L'offrande qui est demandée ici, ce n'est pas l'offrande des fruits de la terre, ce n'est pas l'offrande des animaux, ça n'est pas la dîme, ça n'est pas autre chose, mais c'est le corps, son propre corps. Peut dire, mais comment je vais offrir mon propre corps à Dieu? Pourquoi Paul ne dit pas simplement « offrez vos cœurs » Après tout, on dit, si le cœur est offert à Dieu, le corps l'est aussi, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si notre cœur véritablement est offert à Dieu notre vie tout entière, eh bien, le corps, ça va se manifester aussi par le corps. Okay? Mais Paul précise quand même, offrez vos corps, parce que si le corps ne l'est pas, c'est certainement que le cœur ne l'est pas. Et la manière avec laquelle on voit si le cœur est offert, c'est lorsque le corps est offert. Quelqu'un peut dire, moi, mon cœur appartient au Seigneur. Je loue Dieu dans mon cœur. OK? Il y a un cantique qu'on chante parfois, j'avoue que je trouve qu'il n'a pas beaucoup de sens, mais qui dit « Entends mon cœur, mon esprit qui te loue, et les mots sont trop... je ne sais plus comment on dit, quelque chose comme ça, les mots, je ne peux pas exprimer. » Mais Dieu veut un corps qui exprime. Il nous a donné une langue pour exprimer. Il dit dans les psaumes, « Dites, l'Éternel est... » Et l'apôtre Paul dit, « Je prie par l'esprit, mais je prie aussi avec intelligence. » Donc le corps tout entier doit louer Dieu. Ce n'est pas juste le cœur et puis l'esprit, puis sans qu'on sache ce qui se passe. C'est le corps tout entier, avec toutes ses facultés, doit être offert à Dieu pour qu'il puisse louer Dieu. C'est par le corps que nous interagissons avec le monde qui nous entoure. N'est-ce pas? Par nos paroles, par nos gestes, par nos regards, par ce que nous regardons comme film, que nous écoutons, que nous mangeons, ce que nos mains touchent, ce que foulent nos pieds. Et c'est par le corps aussi que l'on mesure le degré de consécration à Dieu. On peut toujours dire, mon cœur est au Seigneur. Mais on ne le voit que en mesurant les actions du corps et ce que l'on fait avec le corps. Romains 6, versets 12 et 13, nous lisons « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres. » Mais de qu'est-ce qu'il appelle membres? C'est les mains, les pieds, les yeux, l'ouïe, la fait de manger. C'est tout ce qu'on peut faire avec le corps. Quand il ne livre pas vos membres, c'est tous les membres qu'on a dans le corps, ici, ne doivent pas être livrés comme des instruments d'iniquité, mais il dit, mais donnez-vous, voilà notre mot encore ici, hein, offrez, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et puis, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le culte spirituel que Dieu veut, c'est un culte dans lequel le croyant offre son propre corps, ses propres membres. Il faut le prendre littéralement. Il offre ses propres membres. Alors oui, Dieu veut le cœur, bien sûr. Dieu veut l'intelligence, bien sûr. Mais il le veut avec le corps. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu va régénérer l'esprit, l'âme et aussi le corps. Le corps appartient à Dieu. Donc Dieu veut aussi le corps, il veut les lèvres, il veut les bras, il veut le sexe, il veut les vêtements que nous mettons dessus, il veut tout ce qui concerne le corps. Tout. Il est mort pour tout cela. Le sacrifice de Christ, c'est pour tout cela. Alors, il ne nous est pas difficile de sacrifier des choses. Quand on réfléchit bien, on peut sacrifier du temps, on peut pour évangéliser, on peut sacrifier du temps pour visiter, travailler au temple, nous pouvons même donner de l'argent pour tel ou tel soutien. Et on peut souvent offrir assez facilement des choses, mais il est beaucoup plus difficile de se donner entièrement soi-même. D'accord ? Dans les amitiés que nous avons, dans les choses. Il y a des choses que nous aimons faire, et là, on dit, ça, c'est ma propre vie. Le corps est très difficile à assujettir. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Je le traite durement, de sorte qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas désapprouvé. Ça veut dire que l'apôtre Paul, lui-même, hein, sentait que le corps est difficile à maîtriser, il a des appétits. Hein. On peut manger n'importe comment, on peut dire, non, mais même là, la nourriture aussi, hein, il faut maîtriser le corps. Il y a beaucoup d'endroits où nous avons à maîtriser le corps. Offrir son corps, c'est livrer à Dieu nos membres pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. C'est lui offrir notre comportement tout entier. Pensez à ça, j'offre à Dieu mon comportement, je lui offre mes yeux, je lui offre mes bras, je lui offre mes pieds, je lui offre ma sexualité, je lui offre ma manière de me vêtir, je lui offre ma manière de manger, ma manière d'entretenir des relations avec les autres. Tout cela, je lui offre. C'est ça que ça veut dire. offrir son corps. Cette semaine, j'ai vu, j'étais surpris en prenant le transport, je me suis dit, c'est bizarre, il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui sont habillées de manière, franchement, on ne peut même pas regarder en face. Et puis, en écoutant la radio, j'entends qu'il y a eu un appel à s'habiller de manière, pour les lycéennes, à s'habiller de manière provocante par une association féministe. Alors j'ai dit, tiens, c'est étrange, parce qu'il y a des jeunes filles qui se sont habillées de manière provocante et dans les établissements scolaires où ils sont allés, bon, bien, la direction a décidé de ne pas les accepter, enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et en révolte à cela, il y a un mot d'ordre qui a été lancé, un appel à toutes les filles lycéennes de s'habiller de manière provocante. Parce que personne n'a le droit de dire à quelqu'un comment il faut s'habiller. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur propre corps. Et c'est aux autres à apprendre que ce n'est pas parce qu'ils pensent que quelque chose est provocant que c'est provocant. Donc, il y a eu une révolte. C'était lundi 14 septembre. D'accord. Et je peux vous assurer qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas bien habillées. Le droit de faire ce que l'on veut avec son corps. L'apôtre Paul dit ici que le culte que Dieu veut, c'est un corps qui lui soit totalement offert. Et il dit même qu'il lui soit offert en sacrifice. Et l'Écriture accorde une grande importance au corps. Il dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit que vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc ça veut dire, quand il parle de corps et esprit, qu'il parle du corps physique, hein, et esprit, qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul, rappelez-vous, lui-même il disait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, mais à un moment donné il dit que Christ, soit par ma vie, soit par ma mort, Christ sera glorifié dans mon corps. Dans mon corps. L'une des philosophies qui existait à l'époque de l'apôtre Paul, quand il écrit ceci, consistait à nier l'importance du corps. Le corps est purement matériel, disait-on, hein, et ce que l'on fait avec n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'âme. Et il arrive que certains chrétiens réfléchissent comme ça. Et donc, on peut faire ce que l'on veut avec son corps. Mais l'apôtre Paul, il reprend cela, il reprend les Corinthiens. Rappelez-vous, on avait étudié cela en disant que les aliments sont pour le ventre et les aliments... Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, dit-il, n'est pas pour la débauche et pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps physique est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Il appartient à celui qui l'a racheté. Dieu a racheté aussi le corps. Et nous devons être extrêmement attentif à ce que nous faisons avec notre propre corps. Il dit que c'est une offrande qui doit être offerte comme un sacrifice vivant. Et le mot vivant montre la permanence du sacrifice. Avant, on offrait un animal, et pour l'offrir, il fallait le tuer, n'est-ce pas, et le mettre sur l'autel. Mais dans le culte spirituel qui nous est commandé par Dieu ici, il s'agit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Il doit demeurer vivant. Et donc, il y a ici une idée de permanence du sacrifice. Continuellement, ce sacrifice doit demeurer vivant. C'est un sacrifice qui est exigé ainsi par Dieu, qui n'est pas destiné à mourir, mais qui est destiné à vivre. Ici. Mais de quelle vie doit vivre ce sacrifice ? Certes, le sacrifice demeure vivant ici, mais pour vivre la nouvelle vie, nous avons chanté ça tout à l'heure, hein, « Je vis pour Christ, en lui seul est ma foi ». On l'a chanté tout à l'heure, c'est pour vivre pour Christ. Donc le corps est donné pour vivre la vie de Christ, croyant. Le corps ne nous est pas donné pour faire autre chose. Le corps ne nous est pas donné pour qu'on puisse en faire une montagne de muscles. D'accord. Alors maintenant, les hommes, je dis pas qu'il faut pas faire du sport, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un culte du corps. La Bible ne nous commande pas un culte du corps, mais un sacrifice du corps. Un culte spirituel, mais un sacrifice du corps. D'accord ? Et maintenant, on fait le culte du corps. Certains, voilà, on est tous en salle de machin et on essaye d'avoir les plus beaux biceps qui soient, les tablettes de chocolat, que sais-je, un pouce, pour qu'on puisse voir la beauté du corps. Ça, c'est du côté masculin. Et puis, du côté féminin, eh bien, on le découvre, hein, le plus possible pour qu'on puisse l'admirer et qu'on puisse aguicher les autres. Mais ce n'est pas pour ça que le corps a été donné à l'être humain. C'est pas pour cela que le corps a été donné à l'être humain. Lorsque Christ s'est incarné, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Il a pris un corps. Et avec ce corps, il a fait quoi? Avec ce corps, il a fait quoi? Il a vécu une vie de pureté, une vie exemplaire, afin de nous l'offrir comme justice. Il a manifesté Dieu. Le corps de Christ, c'est par Christ incarné que nous avons pu connaître. Hein. Nul n'a jamais vu Dieu, dit l'Écriture. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Mais comment nous l'a-t-il fait connaître? Par l'incarnation et par sa vie consacrée sur la terre. Et c'est exactement ce qui est attendu de l'enfant de Dieu avec son corps. Que son corps puisse refléter Christ et sa miséricorde et son amour. Ce n'est pas pour se montrer et manifester les grâces du corps, mais c'est pour manifester la grâce de Dieu, manifestant Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons un corps, chers frères et sœurs. Et donc nous ne pouvons pas l'utiliser comme le monde l'utilise, à le mettre dans tous les états, à le parer, voilà, c'est pas moi, comme une bijouterie, ou je sais pas, hein, à le montrer comme ça se passe dans le monde. On doit réfléchir vraiment à cela. Dieu veut que nous lui rendions un culte spirituel. Ce culte consiste à lui offrir notre propre corps comme un sacrifice vivant, constamment sur l'autel, parce qu'il est toujours vivant, ce sacrifice-là. Donc l'offrande du corps est un sacrifice vivant, parce que les ambitions naturelles, les projets, les loisirs, le temps, l'argent, les fréquentations, la sexualité, l'habillement, tout cela doivent être soumis au Seigneur pour lequel et par lequel on vit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit 4 versets 7 à 11, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Donc on voit ici que tout chrétien est appelé à manifester la vie de Christ, pas simplement en disant « Christ vit dans mon cœur », mais en le manifestant dans le comportement, à tous les niveaux qu'il soit, dans son propre corps. Et donc, on doit se demander, est-ce que ce que je fais, la manière avec laquelle je m'habille, est-ce que cela manifeste Christ dans sa pureté? Ou est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? D'accord? Si on pense aux compassions de Dieu, à ce que Dieu a, le prix qui a été payé pour que notre corps puisse appartenir à Dieu, eh bien nous saisissons que l'exhortation qui nous est faite ici, c'est de lui rendre un culte en retour, qui consiste à placer le corps entièrement sur l'offrande. Il dit que, troisièmement, c'est un sacrifice saint, sacrifice vivant, mais un sacrifice aussi saint. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc ce sacrifice, il est mis à part. Il est séparé des choses profanes. D'ailleurs, la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est un lieu saint, le corps du croyant. C'est un lieu saint. Il est mis à part pour Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans Romains quand il dit « Ne livrez pas vos membres comme instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des instruments de justice. » Il est vraiment mis à part pour manifester la justice et la miséricorde de Dieu. Le corps offert à Dieu est destiné à un usage spécifique, pas à un usage profane. Il est pour la sainteté, il est pour la pureté. Donc il ne peut être exposé à tout et à n'importe quoi. Il a une destination particulièrement pure, saine et sainte. L'apôtre Paul dit, dans une grande maison, dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc la chose qu'il vient de dire avant, il sera un vase d'honneur sanctifié, mis à part, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Et le corps doit être ce vase sanctifié, mis à part et utile pour accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a destiné. Ne laissons pas le monde nous dicter ce que l'on doit faire avec notre corps. Ne laissons pas les pensées du monde nous envahir en disant « c'est le cœur qui est important, c'est pas le corps, c'est pas ce que l'Évangile dit ». Mais laissons la parole de Dieu nous pénétrer. Et soyons des enfants obéissants qui offrons notre corps. Lorsque nous allons offrir vraiment notre corps, ne pas faire ce que nous avons envie de faire, mais dire je choisis de faire cela parce que c'est cela qui glorifie Dieu. Nous saurons que notre cœur est vraiment au Seigneur. Tant que nous résistons dans ce domaine, notre cœur, il y a danger. On ne peut pas dire que notre cœur est vraiment au Seigneur. Le cœur qui est vraiment au Seigneur se manifeste par un corps qui est offert sur l'autel. Troisièmement, il dit que c'est un sacrifice agréable, un sacrifice vivant, un sacrifice saint, et un sacrifice qui est agréable à Dieu. Ici, l'offrande du corps est un sacrifice agréable à Dieu. On cherche ce qui plaît à Dieu. Moi, je voudrais plaire au Seigneur. Montre-moi, Seigneur, ce que je peux faire. Il dit, offre-moi ton corps. Ah non, ça c'est trop dur. D'accord. Il dit, offre-moi ton corps. Ça plaît à Dieu, voilà. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le corps mis sur l'autel. C'est ce que nous comprenons dans ce passage. Dans d'autres passages aussi, Hébreux chapitre 13, verset 15, il dit, par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres. C'est quoi les lèvres? Ça fait partie du corps, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, bien sûr, la libéralité. Ça, c'est le don, hein. C'est ce qu'on, quand on donne, même la dîme, ça fait partie du corps. Parce que qui c'est qui a travaillé? Qui c'est qui s'est fatigué? Qui c'est qui a sué? C'est le corps, hein. Ce qu'on a en sonnant et trébuchante, c'est l'équivalent de la souffrance du corps. Et que l'on offre aussi à Dieu. Donc quand le corps est offert, vous voyez que tout est offert. L'argent aussi est offert aussi à Dieu. Donc il dit dans ce passage, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et il faut toujours, quand Dieu prend plaisir à quelque chose, ça veut dire que c'est là qu'on doit faire tous les efforts. N'est-ce pas? Et ça veut dire que c'est certainement là où c'est le plus difficile, hein, pour chacun d'entre nous. Dieu prend plaisir à l'offrande du corps, nous dit l'apôtre Paul. C'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Le don que les Philippiens avaient fait à Paul, vous vous souvenez? Était un sacrifice que Dieu agréait. L'apôtre Paul dit, j'ai été comblé de bien recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et ce don, eh bien, il dit que c'est un sacrifice vraiment agréé par Dieu. Un parfum, il emploie la terminologie de l'Ancien Testament, ici un parfum de bonne odeur. Et d'où vient ce don? Eh bien, il vient des Philippiens qu'on a dit tout à l'heure qui ont travaillé. Il vient d'Épaphrodite qui a travaillé pour l'amener. Tout ça, c'est quand tout cela lui arrive, c'est le fruit d'action du corps, n'est-ce pas? Et ces gens se sont offerts corps, âme, esprit à Dieu pour soutenir l'apôtre Paul. Et ce sacrifice-là plaît à Dieu. Peut-être qu'ils n'ont pas acheté des choses qu'ils auraient pu acheter pour leur propre corps afin de pouvoir soutenir le serviteur du Seigneur dans ce ministère. Et Dieu dit, ça c'est une offrande de bonne odeur. Parce que ce corps a été sacrifié en ne lui donnant pas peut-être tout ce qu'il demandait. Peut-être qu'ils ne sont pas allés au restaurant, ils n'ont pas acheté des repas à 50 euros, je ne sais pas, etc. Ils ont mangé simplement parce que dans l'esprit, ils avaient l'idée de soutenir ailleurs. C'est une manière d'offrir son corps aussi au Seigneur. Le corps, le sacrifice du corps plaît à Dieu. Pourquoi est-ce que le sacrifice du corps plaît à Dieu? Ce corps qui nous semble si imparfait, n'est-ce pas? Il y en a qui n'aiment pas leur corps, ils n'aiment pas leur nez, ils n'aiment pas leur visage, ils n'aiment pas leur morphologie. Et donc ils vont faire tout pour ressembler à ce qu'on appelle les canons de la beauté. D'accord? Mais Dieu dit que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, ils sont beaux. D'accord? Dieu a un autre regard sur notre propre corps. Et ça lui plaît lorsque ce corps est ouvert, quel qu'il soit le corps. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit difforme, qu'il soit rouge, qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Qu'il soit, comme quelqu'un disait, avec des cheveux ou sans cheveux. C'est pas ça qui est important. Ce que Dieu veut, c'est que le corps lui soit offert en sacrifice. Et ça, ça lui est une offrande de bonne odeur, une offrande agréable. Alors pourquoi, je reprends ma question, pourquoi est-ce que cela plaît à Dieu ici? Parce que l'offrande du corps est faite par Jésus-Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, nous avons déjà lu ce verset, hein. 1 Pierre 2, verset 5, il dit, 4 et 5, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. » Je pense qu'il parle aussi du corps que l'on offre aussi, victimes spirituelles, « agréables à Dieu, par qui ?» Jésus-Christ. Les choses ne sont pas agréables à Dieu si elles ne passent pas par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est celui qui a revêtu le corps, qui a offert le sacrifice, le seul et l'unique sacrifice expiatoire pour nos péchés. Sacrifice complet. Il est monté, la Bible dit au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes amenés aussi à faire un sacrifice corporel. Ce n'est pas un sacrifice expiatoire, mais c'est un sacrifice de reconnaissance. Et ce sacrifice est agréable à Dieu en vertu du sacrifice qui a été accompli par Jésus-Christ. Et donc, quand nous offrons notre corps à Dieu pour le servir, en considérant l'œuvre et l'offrande du corps de Jésus-Christ, on pourrait le dire ainsi, eh bien, c'est une offrande qui est agréable à Dieu parce qu'il prend, il a comme fondement l'œuvre que Christ a accomplie. Et tout ce que l'on offre à Dieu par Jésus-Christ lui est agréable et ce qui est conforme à sa parole. Donc, offrir son propre corps tel que nous l'avons dit ici, de manière totale et complète, est une offrande qui est agréable à Dieu. Ne dites pas « je m'habille bien, beau et belle pour que je sois agréable à Dieu ». Ce n'est pas ça qu'il regarde. Ah, si vous êtes habillé mal, il voit. Okay? Je ne dis pas que vous s'habillez n'importe comment. Je dis « c'est pas en mettant l'accent, d'accord, sur la beauté extérieure ». Que Dieu trouve son plaisir, c'est en, avec le corps que l'on a, qu'il nous a donné, c'est en le plaçant complètement à son service, dans tous les aspects, qu'il se trouve glorifié. Je termine avec quelques mots, conclusion ici. Quand on lit ce passage, on voit que la transformation, chers frères et sœurs, des connaissances bibliques à la vie, passage de la doctrine à la pratique, n'est pas quelque chose d'automatique. L'apôtre Paul doit exhorter les Corinthiens. Il ne dit pas, voilà ce que Dieu a fait, ô profondeur de la richesse, etc., point. Et puis il termine l'épître. Non. Il dit, je vous exhorte donc, je vous commande, parce que, voilà, on a besoin, ce n'est pas naturel pour nous, d'obéir à la parole de Dieu, même en connaissant la parole de Dieu. Même en ayant devant nos yeux exposé la beauté de l'œuvre de Christ. On ne dit pas, oh, que c'est beau, naturellement. Non, il faut être exhorté, et il faut se soumettre à l'obéissance à la parole de Dieu. On a besoin d'être exhorté là-dessus. L'apôtre Paul, l'Écriture, l'Esprit de Dieu nous exhorte là-dessus. Deuxième chose, l'adoration chrétienne ne se confine pas seulement en un lieu. Hein. Donc, le culte dont Paul parle ici, ce n'est pas simplement le culte dominical. Il parle du culte que chacun doit rendre à Dieu. Donc le culte ici n'est pas simplement... voilà, je ne dois pas rendre à Dieu un culte simplement le dimanche. en disant, voilà, j'ai rendu un culte à Dieu ce dimanche, et puis voilà, tout est fait, la semaine je peux faire ce que je veux. Non, c'est tous les jours de la vie que je suis amené, exhorté à rendre un culte spirituel à Dieu, qui consiste à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est tous les jours. Là, c'est une partie du culte que nous devons rendre à Dieu. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et 24 heures sur 24, le croyant est tenu de rendre un culte à Dieu. Au travail, devant des élèves difficiles, il est exhorté à rendre un culte à Dieu. Ceux qui travaillent à l'hôpital, peu importe les circonstances, avec un patron difficile, il est appelé à rendre un culte spirituel à Dieu en offrant son corps. Le chrétien donc doit adorer Christ dans tout ce qu'il fait, comme je l'ai dit, à la maison, au travail, dans ce qu'il lit et dans tout son comportement. Je vais juste terminer avec cette prière qui est un cantique, hein, qui dit ceci. Prends ma vie, elle doit être à toi, seul au divin maître, que sur les flots de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains, qu'on parle du corps physique ici, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds, quand autre membre du corps ne faiblisse pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante. Ce que nous chantons à la maison, ce que nous chantons vraiment à Dieu. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous utilisons les cordes vocales qu'il nous a données pour exprimer notre reconnaissance à Dieu par le chant, comme ça nous est commandé? On reviendra sur cela une autre fois. Il dit, par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs de pardon. Il parle de le corps utilisé pour l'évangélisation. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte spirituel. Que la parole de Dieu pénètre nos cœurs et que l'Esprit de Dieu incline notre vie tout entière dans l'obéissance à sa parole. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour tes compassions infini envers nous. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pris un corps afin de manifester l'amour de Dieu, de le rendre visible, de le rendre tangible et d'avoir vécu cette vie d'obéissance parfaite, cette vie juste. Nous te louons pour le sacrifice de ce corps qui nous sauve si parfaitement. Et nous te prions de nous aider à considérer véritablement ce que tu as accompli et d'être obéissant pour que, à notre tour, en réponse au sacrifice expiatoire que tu as accompli, nous puissions accomplir le sacrifice que tu nous commandes d'offrir notre corps entièrement à toi, pour vivre pour toi. C'est le culte spirituel que tu nous commandes. Donne-nous des cœurs pour accepter ta parole. Donne-nous des cœurs pour nous soumettre aussi à ta parole. Accomplis cette œuvre en nous. Nous te prions. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher par ta grâce ceux qui ne sont pas encore dans ta bergerie, afin qu'ils puissent saisir vraiment cette œuvre que tu as accomplie, que leur vie, leur corps puissent devenir des instruments de justice pour la sainteté. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.